Vous êtes sur RTL. En direct du studio 11, au 56 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, on défait le monde dans RTL Soir, saison 2, épisode 41. Voici Marie-Mo, Stéphane Carpentier, Brice Dujardin, Greg Caranoni et Cyprien Signy.
Mais le vrai Cyprien Signy en personne.
Bah ouais, il a pas de sosie officiel encore.
Hein. Sans les cheveux et tout, le vrai.
Ah, le vrai. Vous réagissez, vous commentez jusqu'à 20h, vous êtes prioritaire sur le compte Twitter, sur la page de Facebook de l'émission. C'est comme ça qu'on dit, hein, page Facebook. C'est parti. On est ensemble jusqu'à 20h, c'est parti, voici le sommaire.
Toute la semaine, on a cherché comment lutter contre l'abstention. En écoutant On défait le monde, vous comprendrez, eh ben que c'est pas gagné. L'Euro et ses stars du foot, et ben nous ce soir on a décidé d'allumer la lumière sur ceux qui n'ont pas réussi. Le foot, ascenseur social en trompe-l'œil. Le loser, le grand perdant de la semaine avec un grand prix pour l'ensemble de son œuvre à une organisation franchement qui n'aura jamais eu le Laurent.
L'UEFA veut lutter contre toutes les discriminations, enfin presque toutes, enfin à sa façon.
Le billet retour quand on revient sur une info qui a fait la une et dont on ne vous parle plus. Avec ce soir l'histoire déchirante de cette petite fille qui s'était fait servir du détergent à la place de jus de fruits dans un restaurant, Brice.
Oui, près de 2 ans après ce drame, Elisabeth se bat pour retrouver une vie presque normale.
D'ici 20h, vos 3 infos pour briller au dîner. Dans Marche ou rêve, 100 ans et c'est dimanche dans un bureau de vote. C'est énigmatique ça. Et un magnifique séjour.
C'est ce qu'on dit en général quand c'est maléfique.
Non, c'est hyper bien. C'est, je vous jure, c'est hyper intéressant.
C'est énigmatique.
Et un magnifique séjour en Normandie à gagner dans le jeu. Ça sera vers 19h40.
Ouais. Énigmatique.
On défait le monde, saison 2, épisode. Waouh, 41. Ouais.
Allez hop, on y va, on
retourne
pour l'aventure.
C'est énigmatique.
On aurait dû l'enregistrer. On aurait vraiment dû l'enregistrer.
On défait le monde sur RTL.
On a eu tort d'être en direct ce soir, 19h16, c'est parti pour le surf de la semaine, Cyprien.
Et toute la semaine, une actu nous a tenu en haleine. La guerre des régionales fait rage. Des partis ultra mobilisés pour ramener les électeurs aux urnes et surtout des ténors qui reviennent dans le jeu politique à l'image du charismatique.
Jean-Paul Huchon, il annonce qu'il votera Pécresse.
Jean-Paul Huchon, dit Jean-Paul Huchon, qui votera Pécresse. Action, non. Réaction à gauche.
Henri Poste, Lionel Jospin, lui, va se mettre dans la liste d'union de la gauche.
Pop, Huchon, Jospin. Si avec ça, on ne fait pas reculer l'abstention chez les jeunes, alors moi j'abandonne. Des jeunes d'ailleurs hyper concernés par cette élection quand même. À l'image de cette jeune fille, vu dimanche sur BFM.
Aujourd'hui, est-ce que tu es allé voter ?
Non, je ne suis pas allé voter, mais je pense le faire demain.
Voilà. Hein ? Mais pas bien, là ? Hein ? Et pourtant, les régionales, mais c'est quand même génial ! Non, franchement, en écoutant bien les candidats, on se rend compte que ce truc, les régionales, donc, c'est pas une élection. Non, non, c'est... Ah bah c'est Noël. Non mais sérieusement, c'est un truc de fou. Vous voulez un nouvel ordi ? Allez, un nouvel ordi.
Un ordinateur par professeur et par lycéen.
Allez, c'est cadeau, c'est la région. Vous voulez encore quoi ? Allez, on dirait monsieur cadeau.
Le wifi qui sera installé dans tous les lycées.
Ouais, bah, le wifi gratuit c'est pour nous aussi. Quoi d'autre ?
Le vélo. Et offrir un vélo à chaque lycéen et lycéenne.
Allez, un vélo offert par les maires. Merci. Monsieur cadeau est mal barré là. Allez, encore un pour la route.
C'est la gratuité des transports en commun. Dès le 1er septembre 2021...
Non, c'est plus une élection, c'est une tombola ce truc. C'est vrai. Si avec toutes ces promesses on va pas voter, là c'est désespérant. Non, sinon, attention, rien à voir. Marine Le Pen a un message pour ses collègues politiques. Elle est interrogée sur l'UEFA qui a refusé que Munich illumine son stade aux couleurs LGBT.
Je pense qu'il faut laisser le sport en dehors de la politique. C'est un des espaces précisément où la politique ne doit pas entrer. C'est une dérive auquel on a assisté depuis un certain nombre d'années. Et la politique est noble et vous savez, comme je la porte en haute estime.
Ah bah on sait, non, le sport en dehors de la politique, moi je ne mélange jamais, la politique c'est noble. Moi, peut-être une fois.
Je fais partie de celles qui pensent que Karine Berzema n'aurait jamais dû y entrer. Donc bon. C'est quelqu'un qui, à de multiples reprises, a exprimé son mépris à l'égard de la France.
Oui, bon, ça va, peut-être une fois. Ou deux, peut-être.
Allez. Pense à ces joueurs de football qui ne chantent pas la Marseillaise.
Bon, peut-être trois aussi.
Moi, j'ai à dire quelque chose à ceux qui ont choisi M. Youssoufa.
Ah bah même Youssoufa, bon, en fait, elle n'aura jamais une. Hein.
Je pense qu'il faut laisser le sport en dehors de la politique.
Mais bien sûr. Enfin, un mot de notre Jean Castex national qui cherche tous les arguments possibles et imaginables pour inciter deux femmes à la vaccination. C'était hier dans les Landes. Alors, il tente d'abord celui-là.
Moi qui me suis fait tester dizaines de fois, je préfère la piqûre au test. Hein.
Ah, vous savez, la piqûre, hein, c'est mieux que le test. Bon, il sent que ça prend pas trop. Mais comme il y a Olivier Sexy Véran à côté de lui, il va abattre sa dernière carte. Tendez un peu l'oreille.
Et s'il vous montre son épaule, vous faites deux doses pour le prix d'une. Allez.
S'il vous montre son épaule, deux doses pour le prix d'une. Elle est tout gênée, Véran. Un striptease du ministre contre un vaccin. Alors ça, personne ne l'avait encore jamais fait. On a vraiment hâte d'y être. Donc vivement la semaine prochaine.
Vivement la semaine prochaine. Le surf de la semaine signé dans On défait le monde à 19h20. Cyprien Signy.
RTL Soir, on défait le monde.
La grosse info de la semaine concerne bien évidemment, et vous en parliez, l'abstention.
Bah oui, puisque dimanche dernier, on a explosé tous les records. Hein. 66,7% d'abstention. Résultat, bah, toute la semaine, on a évoqué des solutions pour moderniser le vote. Marie, vous avez enquêté, listé, répertorié toutes les possibilités. Conclusion ?
Eh bien, conclusion d'abord, cette hausse de l'abstention n'est pas une exception française. On l'observe dans toutes les grandes démocraties occidentales, dans diverses proportions, avec des tendances de fond qui sont abondamment documentées par les chercheurs. Le processus de mondialisation, d'européanisation, qui offre moins de marge de manœuvre aux États, ce qui donne aux citoyens l'impression que leur voix pèsera moins. Le vote qui est perçu aujourd'hui davantage comme un droit que comme un devoir. Et puis, la façon dont on vote qui n'a quasiment pas changé depuis le 19e siècle. À l'époque, on avait choisi le dimanche pour que les électeurs se rendent aux urnes après la messe dominicale. Donc, ça n'est peut-être plus très en phase avec les réalités pratiques d'aujourd'hui.
Alors justement, depuis dimanche, c'est un peu le concours Lépine, hein, dans la classe politique. Chacun y va de son idée pour résoudre le problème de l'abstention. Alors par exemple, on a entendu le vote obligatoire.
Alors oui, ça c'est un grand classique. Hein, on réentend souvent cette vieille ritournelle du vote obligatoire avec en exemple, portée au nu, la Belgique qui a une très vieille tradition du vote obligatoire depuis la fin du 19e et qui sanctionne par des amendes de 40 à 80 euros, 200 euros en cas de récidive et qui atteint, c'est vrai, des taux de participation à nous faire pâlir d'envie, près de 90% des participations pour les dernières élections européennes. Mais ce n'est pas si simple. Hein. Ce vote par la contrainte, subitement, pourrait aussi biaiser les résultats du vote. Selon Tristan Guérin, enseignant-chercheur et expert associé à la Fondation Jean Jaurès, cela pourrait favoriser les partis anti-système, les extrêmes, comme on dit. Écoutez.
Quand vous forcez des gens qui n'ont déjà pas envie et qui sont rétifs, ils vont se mettre à voter pour des partis qui ont un discours un peu extrême vis-à-vis des gens au pouvoir ou vis-à-vis du statu quo. Et donc, du coup, ils s'en serviront pour catalyser une partie de ces nouveaux électeurs. C'est un peu comme si vous forciez à regarder les matchs de l'Euro à quelqu'un qui n'aime pas le foot. Vous avez toutes les chances de muer finalement son manque d'intérêt pour le foot en une haine sans nom. Et ben ça, c'est un peu la même chose, à mon avis, pour la politique.
Alors Marie, on entend parler d'une autre proposition, c'est le vote par Internet.
Alors là non plus, ça n'est pas une panacée. Hein. En Europe, plusieurs pays l'ont expérimenté, la Norvège, la Suisse, et ils sont revenus récemment au bon vieux bulletin papier, principalement parce que la crainte des piratages était trop forte. Hein. La Suisse avait chargé 3000 hackers de tester le logiciel, et ils ont trouvé une faille. Et puis autre problème, c'est le soupçon. Le soupçon que le vote ne soit plus secret, ne soit plus sincère, ce qui mettrait en doute la légitimité d'un élu. Écoutez Tristan Guérin.
L'électeur peut aussi être sujet à des influences familiales, amicales, qui ne se déroulerait pas dans l'isoloir où personne ne peut contrôler in fine le choix électoral et qui pourrait avoir lieu au cours d'un vote 20 secondes par internet chez soi. Ça peut aussi avoir lieu.
Et puis il n'a pas été prouvé que cela boostait la participation de façon ébouriffante. Alors attention, il n'y a pas que des désavantages. Hein. Cela permettrait notamment de résoudre les problèmes de malinscription sur les listes électorales, en particulier pour les jeunes électeurs qui changent souvent d'adresse.
Et puis il y a aussi ceux qui proposent aussi plus de démocratie participative pour résorber l'abstention.
Oui, ça c'est le modèle du RIC, du référendum d'initiative citoyenne que souhaitaient les Gilets jaunes. Mais pas sûr non plus que ce soit un remède miraculeux. Si vous regardez la Suisse, qui a une tradition de votation avec des référendums locaux très réguliers, les électeurs ne se ruent pas dans les urnes. Hein. Les taux de participation ne sont pas forcément très élevés. Ils peuvent s'établir autour de 20%.
Ouais, donc tout ça sont vraiment des aménagements pratiques du vote. Mais est-ce que c'est vraiment le nerf de la guerre finalement ?
Mais non, c'est pas le nerf de la guerre. On peut gloser pendant des heures sur des solutions techniques, voter chez soi en 20 secondes, en un clic. C'est d'ailleurs ce qu'a fait gloser une partie des hommes et femmes politiques, mais c'est peut-être aussi une façon pour eux d'occulter leur propre responsabilité dans cette abstention. Écoutez Tristan Guérin.
C'est logique, quand on pense que la classe politique de la 5e République est constituée pour une part importante d'entre elles de hauts fonctionnaires ou de fonctionnaires, c'est logique qu'ils souhaitent répondre à un problème politique à une solution administrative. Malheureusement, la science politique nous montre que c'est un peu plus complexe que ça, que tout cela traduit le fait que le système institutionnel global de la Ve République frustre une partie de l'électorat et conduit à bouder les urnes.
Donc pour résumer, c'est extrêmement complexe. Il n'y a pas de solution miracle, c'est sans doute peut-être un panaché de toutes ces mesures qui peuvent ramener les électeurs aux urnes, et c'est sans doute à la classe politique de réenchanter le vote et la pratique démocratique.
Décryptage complet, fort intéressant, de Marie Mollet dans On défait le monde à 19h24.
À suivre dans On défait le monde.
La première info pour briller au dîner. Vous découvrirez que votre enfant n'est pas prêt de devenir un pro du foot. Et puis le jeu. À tout de suite.
On défait le monde dans RTL Soir.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
Et c'est la première de ce soir à 19h26. C'est avec Brice et un Américain à Paris.
Oui, je voulais vous faire entendre la voix de cet Américain qui parle français comme vous et moi. Écoutez.
À titre personnel, permettez-moi de vous dire à quel point je suis content de me retrouver en France, une deuxième patrie pour moi, où j'ai vécu pendant plus de 10 ans.
Savez-vous à qui appartient cette voix ?
Absolument pas.
Eh bien, ce français impeccable, c'est celui d'Anthony Blinken. C'est le nouveau secrétaire d'État américain. En fait, c'est l'équivalent chez nous du ministre des Affaires étrangères. Ah, c'est, si vous voulez, le Jean-Yves Le Drian américain. Il a vécu en France. Il est allé à l'école, une école bilingue à Paris dans les années 70-80. Il était donc de passage à Paris aujourd'hui. Et il a voulu montrer qu'il est resté connecté à la culture française, notamment aux séries diffusées aux États-Unis.
Le Bureau des légendes, 10%, Lupin.
C'est énorme, ça. Et Jean-Yves Le Drian, du coup, il a tenté un peu d'anglais ou pas pour
Absolument, bien sûr, écoutez.
Donc, Anthony, welcome back.
Voilà, c'est un peu plus court. C'est un peu plus court, mais c'est Jean-Yves Le Drian. Non, mais si, il a essayé.
Je pense qu'il l'a fait que pour faire Jean-Yves Le Drian.
C'était cadeau du soir, 19h27.
Donc, Anthony, welcome back.
Allume la lumière.
Allume la lumière quand un expert nous éclaire sur l'actualité. Et ce soir, on défait un peu l'euro.
Bah oui, parce qu'on vous parle en permanence de ces stars du foot. Les enfants rêvent de faire carrière, de milliards. Et pourtant, quoi de plus sélectif qu'une carrière de joueur de foot ?
On a donc voulu en savoir plus en se posant trois questions. Le foot, c'est certes sélectif, mais à quel point ? Peut-on encore considérer que c'est un ascenseur social ? Et comment ça se passe pour ceux qui échouent ?
On a donc contacté Hugo Juskowiak. Il est maître de conférence à l'université d'Artois, sociologue du sport. Et d'abord, le foot sélectif, ok, mais à quel point ?
Les données que j'ai pu récolter pendant mon travail de thèse montrent que le pourcentage de réussite est d'environ 1 pour 1000. C'est-à-dire que les jeunes enfants, les jeunes footballeurs de moins de 13 ans qui sont en classe de 5e ont statistiquement une chance sur 1000 de finir un jour footballeur professionnel. Donc c'est effectivement extrêmement sélectif. C'est le taux d'entrée, le taux de réussite, pardon, à Sciences Po. Maintenant, pour les joueurs internationaux, c'est encore plus compliqué. On peut imaginer que sur les 1200 professionnels français, seuls 22 sont sélectionnés. Donc, c'est encore 20 fois plus sélectif pour être en équipe nationale.
Donc, il y a nos enfants qui écoutent, là. Votre enfant a plus de chances de rentrer à Sciences Po que de devenir une star du foot. Mais ça reste quand même le rêve de beaucoup, beaucoup de gamins.
Hein. Oui, à tel point que beaucoup y voient un moyen de s'en sortir. Mais à écouter notre sociologue, on peut plus vraiment parler d'ascenseur social.
Pour ceux qui parviennent, oui, puisqu'ils arrivent, en tout cas ceux qui sont les plus médiatisés, les plus reconnus, c'est certain. Après, voilà, compte tenu de la statistique de 1 pour 1000, le jeu est extrêmement risqué. L'origine sociale des joueurs est toujours majoritairement populaire. 50% environ des joueurs professionnels sont issus d'origine populaire. Mais ce discours médiatique là, qui fait du football le levier, l'outil préférentiel de l'ascension sociale, quand on dit ça, c'est regarder le phénomène par le bout de la lorgnette. On oublie l'essentiel des trajectoires qui sont bien plus biscornues, bien plus compliquées, bien plus faites de coups d'arrêt, d'accélérateurs, de bifurcations. C'est pas forcément cette image des finales qu'on nous vend de l'ascenseur social.
Bon, grosse désillusion quand même, et donc énormément d'échecs.
Et là arrive la douloureuse question, ceux qui échouent, bah, ils deviennent quoi ?
Il y a plusieurs trajectoires possibles. Hein. Le footballeur qui est évincé continue à jouer au football, et alors qui considère qu'il y a toujours une possibilité de rester dans le milieu. Donc il sort en même temps dehors et en même temps il croit toujours en la possibilité d'être un jour à nouveau appelé. Les réinsertions sont d'autant plus difficiles que l'éviction se fait tardivement. C'est-à-dire que quand on est mis dehors à 13, 14 ou 15 ans, les jeunes footballeurs reprennent une scolarité normale. entre guillemets, ils n'ont été éloignés d'une trajectoire classique que pendant 2-3 ans. Quand l'éviction se fait à 18, 19, 20 ans, là c'est beaucoup plus compliqué de rebondir, d'autant plus que les études ont souvent été mises un petit peu de côté. Et effectivement, le temps qui a été passé au football est du temps perdu. Si on ne devient pas footballeur professionnel, eh bien pour s'insérer professionnellement de manière classique dans la vie un peu plus ordinaire, on va dire.
Voilà, les grosses déprimes des enfants qui écoutent ce soir.
Ouais, c'est clair. Ça fait réfléchir. Hein.
Ouais, je pense que les parents sont pas mécontents. On dit à leurs enfants, attention, c'est très dur. Ouais. Tu vois ce que je te disais?
C'est le monsieur de la radio qui l'a dit.
19h31.
À suivre dans On défait le monde.
Une deuxième info pour briller au dîner. Vous découvrirez qui est le loser de la semaine. Et un séjour à gagner en Normandie, à Caen-la-Ville.
Ouais. Bah oui, c'est vrai.
Tout de suite.
On défait le monde dans RTL Soir.
Winamax. Les meilleures cotes.
Et c'est l'heure de retrouver un gagnant Winamax sur RTL. Ce soir, on a le plaisir d'accueillir Abdelkader de Charleville-Mézières. Salut Abdelkader.
Salut Raymond.
Alors dis-moi, t'as remporté ton pari en pariant sur quel match?
J'ai parié sur deux attaquants de pointe, des matchs France-Portugal et Pologne-Suède.
Et donc tu as gagné combien sur ce combiné de deux matchs, dis-moi?
La mise, elle était de 50 euros avec une cote de 189. Ce qui fait un total de 9450 euros de gains.
Waouh, bravo! Et donc, si je comprends bien, tu avais parié deux doublés sur tes deux matchs?
Oui, exactement. J'ai joué sur les deux attaquants vedettes des deux équipes. Ils ont marqué deux doublés et avec de la chance, j'ai reporté le gain.
Eh bah, ben, pronostiquer deux doublés, c'est fou. Qu'est-ce qui t'a mis sur la piste de ces deux doublés, justement?
Tout simplement, puisque c'est des attaquants de pointe, parce qu'ils ont fait une saison exceptionnelle avec leur club. Je me suis dit, pourquoi pas, un doublé de chacun. Et au final, c'est passé.
Eh bah, ben, tu as eu raison de tenter ce pari. La chance t'a souri. En tout cas, merci beaucoup à Abdelkader d'avoir répondu à nos questions. Encore félicitations et je te dis à bientôt.
Merci beaucoup, Raymond. Au revoir.
Et nous, on se dit à très vite sur RTL pour une nouvelle chronique Winamax.
Retrouvez les paris sportifs sur RTL avec Winamax.
Winamax, les meilleures cotes.
Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RTL. On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
On avait un Américain à Paris tout à l'heure avec Brice. Marie va nous parler trésor.
Eh oui, la Cour de cassation a rendu un arrêt cette semaine dans une affaire de lingots d'or trouvés par des ouvriers du bâtiment sur un chantier, avec à chaque fois dans ce genre de dossier cette question, à qui revient le magot? Qui est propriétaire? Alors, je voulais vous rappeler les règles de base, au cas où, si vous découvrez un trésor. Alors, si vous découvrez un trésor, la moitié vous revient, l'autre moitié revient au propriétaire des lieux, à l'endroit où il est enterré. Mais ce n'est pas tout. En droit, un trésor, c'est une chose cachée ou enfouie, qui est découverte, qui est découverte par pur hasard. Donc si vous avez utilisé un détecteur à métaux, c'est fichu, le butin ne vous appartient plus, vous ne toucherez pas un copec. Même chose si vous décidez de retourner la terre d'un jardin pour dénicher des lingots. Et puis autre cas de figure, si vous tombez nez à nez avec un trésor au fond des mers, sait-on jamais, vous n'avez droit à rien. Vous n'avez droit à rien. L'intégralité revient à l'État si le propriétaire ne se manifeste pas. Et vous, vous n'en verrez pas la couleur et pas un centime.
Et donc mon conseil, si
c'est
vous
de
trouvez un trésor, vous
avec votre pelle à métaux là,
chut, silence total. 19h35.
RTL.
Le loser de la semaine.
Le loser, le grand perdant de la semaine. Et une nouvelle fois, Laurent, dis donc, vous avez de la chance, ça ne fait pas attention à vous. Il est cadeau ce soir. Non, parce que franchement, l'UEFA, quoi.
Ah, l'UEFA et cet hymne pour l'Euro. The people, nous sommes le peuple, les gens. Et allez, dansons tous ensemble, réunis. L'UEFA, une organisation engagée contre toutes les discriminations. Un exemple avec cette campagne en 2016 où des joueurs disent non au racisme.
Disons non au racisme.
Nein zum Rassismus.
Nein til Rassismus.
Des joueurs qui n'hésitent pas à mettre un genou à terre avant le coup d'envoi de match, de l'Euro comme pour Angleterre-Écosse. Et sur la lutte contre les discriminations envers la communauté LGBT, l'UEFA lance aussi des campagnes. Exemple en 2017 avec un spot TV « Tous égaux sur le terrain ».
L'UEFA étend son message dans le but de promouvoir l'inclusion, la diversité et l'accessibilité au-delà de l'ethnicité, mais aussi le sexe, l'âge, l'orientation sexuelle, toutes les capacités et les origines sociales.
Dans cet élan, la ville de Munich souhaite pour le match Allemagne-Hongrie mercredi dernier illuminer son stade aux couleurs arc-en-ciel de la communauté LGBT pour protester contre une loi en Hongrie. Le président Viktor Orban a adopté une loi qui sanctionne l'homosexualité au nom de la défense des enfants. Bon, l'UEFA va dire oui, ça va passer crème.
L'UEFA refuse catégoriquement, estimant être une organisation politiquement et religieusement neutre.
Ah bah attendez, je ne comprends pas. L'UEFA lutte contre toutes les discriminations. Sur son compte Twitter, bah tiens, en 2019, l'organisation écrivait même « Fier que l'Euro 2020 soit un tournoi pour tout le monde avec le drapeau arc-en-ciel sur une photo ». Alors là, on a besoin du géopolitologue Pascal Boniface. Pourquoi l'UEFA a-t-elle refusé ?
C'est la composition de l'UEFA qui le fait. Il y a 55 fédérations qui sont membres de l'UEFA, donc c'est beaucoup plus large que l'Union européenne. Et au sein de l'UEFA, les pays qui ne sont pas sensibles à la lutte contre l'homophobie sont plus nombreux qu'au sein de l'Union européenne. Donc l'UEFA a tenu compte de ses équilibres internes.
Une décision de l'UEFA qui fait réagir le gouvernement. Ici en France, le secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune, s'indigne.
Je regrette cette décision parce que je crois que ça aurait été un symbole très fort. L'UEFA argue de règles internes que je peux comprendre. Pas de message politique. Là, je crois qu'on est au-delà d'un message politique. C'est un message de valeur profonde.
L'Élysée regrette profondément cette décision. L'attaquant des Bleus, Antoine Griezmann, poste une photo du stade de Munich aux couleurs LGBT. Mais l'UEFA, allez, tente de sauver la face sur Twitter.
L'image de profil a été modifiée et que l'UEFA est aux couleurs LGBT.
Un premier acte, et sur son site internet, il est même écrit...
L'UEFA est fière de revêtir les couleurs de l'arc-en-ciel. Il s'agit d'un symbole qui incarne nos valeurs fondamentales, qui promeut tout ce en quoi nous croyons. Une société plus juste, égalitaire, qui accepte tout un chacun, quel que soit son milieu, ses croyances, son genre et son orientation sexuelle.
Un beau texte, mais bon...
Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu.
Mais bien sûr.
Et mercredi soir, le jour du match Allemagne-Hongrie. Un supporter rentre sur la pelouse pendant l'hymne hongrois et est arrêté devant l'équipe avec un drapeau arc-en-ciel. Le bilan de cette histoire, Pascal Boniface ?
Ce qui est certain, c'est que l'UEFA est plus en avance sur la lutte contre le racisme que sur la lutte contre l'homophobie.
Et que l'UEFA relise les paroles de son hymne pour l'Euro.
We are the people we've been waiting for.
Et le pire.
Très belle démonstration.
Mais évidemment, c'est que s'ils avaient rien dit, on en aurait parlé 10 fois moins.
C'était l'analyse.
C'était l'édito.
C'était l'édito. Ce qui est bien, c'est que c'est court, vos éditos.
Mais c'est toujours court.
Dominique Armieux, 19h39, le jeu, s'il vous plaît.
Allez, c'est l'heure du cadeau.
C'est l'heure de Monsieur Cadeau.
Je suis là. Mais attendez, vous voulez un ordinateur ?
Un ordinateur par professeur et par lycéen.
Le vélo.
Et offrir un vélo à chaque lycéen et lycéenne.
Vous voulez les transports en commun gratuits ?
C'est la gratuité des transports en commun. Dès le 1er septembre 2021.
Mais non, on vous offre un week-end à Caen. À Caen-la-Mer en Normandie. C'est bien mieux que tout ça. Le temps d'un week-end, vous profiterez de cette destination animée des plages du débarquement. Un week-end pour deux personnes. Deux nuits en chambre double dans l'hôtel Best Western Plus, le moderne. C'est un 4 étoiles, évidemment. Les petits déjeuners sont là pour vous. Et on a aussi une carte cadeau pour bien un dîner au restaurant.
Ah ouais.
On va même choisir le restaurant pour vous, pour que ce soit vraiment super.
Ah ouais.
Non mais on connaît quand la mer, nous, maintenant.
Oui.
Ah oui.
Surtout quand on arrive à le dire.
Ouais. Oui, attendez, ça va venir.
Ouais.
On a aussi deux entrées pour le mémorial de Caen à vous offrir. Une visite à l'abbaye des Hommes. Un parcours à énigmes pour visiter le centre historique de Caen. Tout ça, ça a une valeur de plus de 500 euros. Et alors, comme je galère toujours pour donner le nom du site, je l'ai enregistré caenlamer-tourisme.fr. Du coup, je peux le rejouer si on veut. Hein. caenlamer-tourisme.fr.
Il est énorme.
Ouais.
Allez, une question pour ça.
Ouais, bah oui, la fameuse question dont défait le monde. On reste dans le football. Hein. Lundi, les Bleus affronteront la Suisse en 8e de finale de l'Euro. On espère qu'ils vont gagner d'ailleurs.
Ah oui.
Quel est le surnom de l'équipe suisse ? Est-ce que c'est A, la Nati ? Est-ce que c'est B, la Seleção Helvétique ? Ou est-ce que c'est C, la Squadra Azzurra du Léman qui joue en rouge ? La Nati, la Seleção Helvétique ? Ou la Squadra Azzurra du Léman qui joue en rouge ? Vous avez la bonne réponse, 30-10, 3-2-1-0.
3-2-1-0, le standard est ouvert à partir de maintenant. Super cadeau à l'arrivée. Bonne chance à vous tous, 19h41.
caenlamer-tourisme.fr.
C'est relou, hein.
On défait le monde sur RTL.
Le billet retour quand on revient sur une info qui a fait la une et dont on parle moins aujourd'hui.
Et ce soir, une histoire dont on vous avait déjà parlé l'an dernier. Souvenez-vous, c'était durant l'été 2019, il y a 2 ans. Le son n'est pas là. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Hein. C'est une histoire terrible. Dans un restaurant en Bretagne, une petite fille demande un verre de jus. Écoutez la suite.
À Pornic, en Loire-Atlantique, un hôtel-restaurant a servi par erreur du détergent à la place d'un jus de fruits maison à une fillette de 22 mois.
Conséquence dramatique due à une négligence assez hallucinante.
Selon la gendarmerie, les employés du restaurant utilisaient une bouteille de jus de fruits pour stocker le liquide toxique.
Alors cette semaine, il y avait l'audience du restaurateur. Mais avant d'aborder le volet juridique, d'abord, comment va la petite Elisabeth Brice? Parce que l'an dernier, vous nous racontiez qu'elle avait gardé très graves séquelles. En fait.
Alors, Elisabeth aura 4 ans au mois de septembre. Elle va mieux. Elle a été opérée au mois d'août dernier. Le chirurgien en fait a prélevé un morceau de son intestin pour lui greffer à la place de son œsophage qui a été détruit par le détergent. En novembre, donc plus d'un an après l'accident, Elisabeth a pu recommencer à manger par la bouche. Jusque-là, je vous rappelle qu'elle avait été exclusivement, pendant plus d'un an, nourrie toutes les nuits par une sonde, c'est-à-dire un tuyau qui était relié directement à son estomac par ce qu'on appelle un bouton gastrique. Aujourd'hui, donc, elle s'alimente normalement, mais pas suffisamment. C'est-à-dire qu'elle a encore besoin de compléments qui lui sont injectés, cette fois-ci, à l'aide d'une seringue directement dans l'estomac. C'est indispensable pour qu'elle puisse garder une croissance normale. L'espoir, c'est qu'elle puisse s'alimenter à 100% par la bouche d'ici la fin de l'année. Mais de toute façon, et Elisabeth le sait, elle n'aura jamais une vie totalement normale, comme nous l'explique Arnaud Cobb, son papa.
Il y aura toujours forcément une partie de séquelles qui est liée au fait que un intestin et un œsophage fonctionnent pas de la même manière. Elle a des remontées en fait, elle peut avoir des remontées acides ou des choses comme ça qui peuvent perturber ses nuits. Ce sera jamais 100% comme quelqu'un de normal. Il y a des risques augmentés de cancer de la gorge, de l'œsophage, de l'intestin. Il y a plein d'aléas auxquels on risque d'être confronté dans les prochaines années qui sont pas du tout maîtrisables.
Dernière chose, ce morceau d'intestin greffé, il peut également grandir plus vite que ne l'aurait fait son véritable œsophage et donc entraîner des complications, des obstructions. Une expertise médicale a établi que la petite fille a aujourd'hui une incapacité fonctionnelle permanente, c'est-à-dire que son œsophage fonctionne entre 20 et 40% moins bien que le mien ou le vôtre.
Et ça, Brice, ça a d'autres conséquences dans sa vie quotidienne?
Oui, un exemple simple, sa scolarité. Impossible pour Elisabeth d'entrer à l'école normalement pour sa première rentrée en septembre dernier. Donc, ses parents lui ont aménagé un emploi du temps entre école le matin puis crèche, car elle a besoin d'un suivi alimentaire évidemment, et ça ne pouvait pas avoir lieu correctement dans une cantine scolaire, c'est plus facile avec le personnel de la crèche. Peu à peu, elle est allée à la cantine, mais avec son propre plateau, et ses parents espèrent qu'à la rentrée, elle pourra aller tous les jours normalement à la cantine avec une attention particulière, une lourdeur de plus donc dans le quotidien d'Elisabeth et de sa famille.
Sa famille justement, Brice, comment va-t-elle aujourd'hui?
Entre fatigue, inquiétude, découragement, les contraintes médicales et logistiques, les parents d'Elisabeth ont traversé une période très difficile, sa sœur également. Alors ils vont mieux, mais il y a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête, le risque de complications, d'une dégradation de son état de santé et donc de l'organisation de toute la vie qui va autour tout au long de cette épreuve. Ce qui a fait tenir le papa d'Elisabeth, c'est l'énergie de sa fille.
C'est une enfant qui a su se construire autour de ça. C'est une petite fille qui est vraiment formidable. Je dis pas ça parce que je suis son père, hein, mais elle a une philosophie qui est ultra positive. Elle va voir le verre à moitié plein tout le temps. Moi, je vais vous dire, c'est sur ça que je me suis appuyé pendant très très longtemps. C'est sur le fait que moi, j'avais une petite fille heureuse en face de moi tout le temps. Je pouvais pas m'apitoyer sur mon sort, alors que celle qui subit le plus finalement. Elle gardait une joie de vivre importante, quoi.
Et le procès du propriétaire du restaurant avait lieu cette semaine. 6 mois de prison avec sursis ont été requis contre lui. Un procès qui a ravivé les douleurs, en fait.
Oui, parce que avec le temps et surtout avec l'amélioration de l'état de santé d'Elisabeth, la colère des parents s'est un peu apaisée, mais le procès a été un moment très difficile.
Quand je vois comment se sont orientés les débats lors de l'audience, il y a une nouvelle colère un peu qui est présente. Le propriétaire, lui, se dégage complètement de sa responsabilité. La probabilité pour qu'il soit relaxé, elle n'est pas nulle. Et la question qu'on va se poser, nous, c'est... Mais en fait, ça veut dire que personne n'est responsable et qu'on va repartir en se disant c'est un accident qui pourra se reproduire et ça veut dire qu'il n'y a pas de responsable et que ça s'appelle la faute à pas de chance. Je pourrais pas l'entendre, ça, vous voyez. Il n'y a pas de peine qui pourra nous retirer la nôtre. Pour moi, il faut qu'il y ait des responsables qui soient identifiés, qu'il y ait une peine qui soit symbolique pour que des messages passent et que ça se reproduise plus. Parce que c'est hallucinant ce qui s'est passé.
La décision sera rendue donc par le tribunal de Saint-Nazaire le 12 juillet prochain.
Bien retour ce soir avec Brice du Génie, c'est ça, on défait le monde, hein, sans les sourires pour offrir des cadeaux aux auditeurs et puis des histoires comme celle-ci, bien évidemment. Dans un instant, la troisième info pour briller au dîner. Restez bien là.
RTL Soir, on défait le monde. On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
La troisième de ce soir, mesdames, messieurs, c'est avec Cyprien et Capo Sud.
Oui, enfin, pas vraiment. Ce soir, chers auditeurs, oui, on va vous faire briller grâce à l'un des membres de cette équipe. Oui, parce que sachez que parmi nous, dans cette table, il y a quelqu'un qui a couru le marathon en moins de 3 heures. Alors, c'est pas Brice. Hein.
Non, je vous confirme que c'est pas moi. Quelqu'un aussi qui est allé au sommet du Mont Blanc, enfin presque, enfin pas loin, quoi. Qui a fait le trail le plus dur du monde, qui s'appelle la Diagonale des Fous, qui a lieu à La Réunion. Bon, il n'est pas allé au bout, il a fait 80 km, mais quand même, c'est vraiment pas mal.
Ouais, ce n'est pas moi non plus. Ah bon, ni vous, Cyprien, ni Marie, alors encore moins Greg. C'est Stéphane Carpentier.
Alors, on vous rassure, hein, il a été sportif, très sportif, même si ça a un petit peu changé.
Et donc, ce soir, vous pourrez, autour de votre poulet rôti, dire c'est dingue, tu sais Stéphane Carpentier, le présentateur d'RTL.
Qui ça ?
Mais si, tu sais, Stéphane Carpentier, le chauve qui fait le matin. Là.
Ouais, ben.
Eh ben, il a couru le marathon en moins de 3 heures, le gars.
Voilà, Stéphane. Alors, on voulait vous faire ce petit clin d'œil pour votre dernière dont défait le monde pour vous, hein, parce que nous, on sera encore là 2 semaines. On voulait vous remercier pour la place que vous avez faite dans RTL Soir pendant ces 2 années.
Merci.
Merci d'avoir supporté nos blagues et de nous avoir laissé piloter un petit peu cette émission, de nous avoir conseillé, cadré de temps en temps. Bref, comme dirait Benzema à Zidane,
oula,
big up frérot.
Merci à vous, bravo surtout pour la tenue, le contenu de cette émission qui est vraiment une émission à part depuis 2 saisons. Ça a été un plaisir d'être à vos côtés, bien évidemment.
Merci.
Était bien cette info pour Brouiller.
Ah, c'est la meilleure. La meilleure. C'est improbable.
Bravo. Merci de dire à tout le monde que je suis gros aujourd'hui.
C'est moi, je me sers.
19h49.
Marche ou rêve ?
Marche ou rêve, c'est quand on met en valeur vos idées, vos initiatives.
Et là, les amis, soyez bien à l'écoute. Alors que les bureaux de vote, vous l'avez entendu, manquaient de personnel dimanche dernier, à Bressuire, dans les Deux-Sèvres, eh ben, il y avait Jacqueline.
Oui, Jacqueline, 100 ans et 6 mois. Oui, vous avez bien entendu, 100 ans et 6 mois. Elle s'investit dans son rôle de citoyenne et elle n'a pas manqué une seconde du premier tour des élections régionales et départementales. Jacqueline est en ligne avec nous. Bonsoir Jacqueline.
Bonsoir.
Vous avez été assesseur dans un bureau de vote, vous avez assuré le dépouillement. Racontez-nous comment cela s'est passé.
Ça s'est passé très bien. J'ai rencontré beaucoup d'amis, des anciens clients, et je pense que c'était un devoir de citoyen d'être présent.
Vous dites des anciens clients parce que vous faisiez quoi comme métier ?
Un magasin pendant de 25 ans à 75 ans.
Est-ce que c'est la première fois que vous le faisiez ? Pourquoi vous avez décidé d'y aller ?
C'est la 10e fois. Mon fils a travaillé à la mairie, il avait beaucoup d'acquaintances, et un jour on m'a demandé si je voulais, et j'ai dit oui. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment, c'est super. Ça me fait rajeunir.
Vous n'avez jamais manqué une élection, Jacqueline ?
Non, depuis 10 ans, non. Sauf l'année dernière avec le Covid. Là.
Et le taux d'abstention des jeunes, vous l'avez vu, a été élevé au premier tour des régionales.
Ils n'étaient pas intéressés beaucoup, les jeunes.
Et qu'avez-vous envie de leur dire aux jeunes ?
J'aurais dit que ce n'était pas bien. Parce que vous voyez, j'ai 15 arrière-petits-enfants, dont les 3/4, c'est 19, 20, 22. Ben, vous savez, je n'ai pas pu les amener à voter. Hein. Par contre, j'ai dit que dimanche prochain, je voulais absolument. Parce qu'il y avait trop d'abstention.
Est-ce que vous avez des discussions avec vos arrière-petits-enfants, justement, là-dessus ? Est-ce que vous leur dites que vous, qui avez pas mal vécu, que peut-être c'est un devoir d'y aller ? Est-ce que vous avez
voilà,
des discussions ?
C'est ce que j'aurais dit. Il me dit, oui, mais tu comprends, mamie, nous, on a des copains, on s'amuse, on a autre chose à faire. Est-ce qu'on me répond ?
Et vous comprenez cette réponse ?
Non, pas du tout. Pas du tout, ça ne me plaît pas du tout. Mais bon... Il faut accepter. Hein.
Mais vous qui avez connu la France et qui avez connu une période où, pardon, mais vous-même en tant que femme, vous n'aviez pas le droit de vote. Est-ce que vous leur parlez de ça ?
Je leur dis que c'est un devoir de citoyen et que le vote, c'est l'occasion de s'exprimer. Je pense qu'ils l'ont compris et je pense que dimanche, ils vont voter, ça j'en suis sûr. Et je pense que les régionales, en même temps que les cantonales, ont peut-être aussi... ça n'a pas été très bien compris, je pense.
Dites-moi, quel est votre meilleur souvenir d'élection en tant qu'assesseur ou même dans votre vie ? Quelle est l'élection dont vous gardez le meilleur souvenir ?
Moi, je les ai tous aimés, les élections. Hein. J'ai toujours rencontré les mêmes personnes.
Jacqueline, vous avez 100 ans et 6 mois. Vous avez connu tous les présidents de la 5e République.
J'en ai connu pas mal.
lequel vous avez préféré ?
Moi, c'est surtout Giscard, puisque c'est lui qui m'a donné mon diplôme.
Diplôme de quoi ?
Le mérite national.
Voilà, vous avez été promu dans l'ordre national du mérite le 26 mai 1975.
À la Versailles.
Et racontez-nous alors la cérémonie.
C'était superbe. Giscard a été très simple. Il était avec, avec Carter, qui m'a donné aussi une poignée de main, le président américain.
Jimmy Carter.
Voilà. Très gentil lui aussi d'ailleurs.
Formidable.
Giscard d'Estaing m'a dit, c'est dommage que j'habite pas plus près, j'aurais acheté un chapeau pour ma femme.
Et Jacqueline, vous aimeriez être reçue par Emmanuel Macron à l'Élysée?
Oui, certainement.
En tout cas, c'est formidable, Jacqueline.
Bravo, bravo Jacqueline.
On vous félicite, on est super fiers de vous avoir reçu dans Défait le Monde ce soir. Et puis dimanche, donc, hein, vous serez au bureau de vote et on espère que les électeurs seront nombreux à venir vous voir aussi.
Oui, j'espère aussi.
Merci beaucoup, voir Jacqueline.
Hein. Formidable.
Merci à vous. Dans les Deux-Sèvres.
Merci. Et vous savez, j'ai pas l'impression d'avoir 100 ans. Hein.
Ah bah, on n'a pas l'impression quand on vous écoute non plus. Hein. Ça fait rêver.
J'ai l'impression d'avoir beaucoup moins.
Elle est formidable.
Comme on dit qu'Emmanuel Macron écoute cette émission, quand il ira dans les Deux-Sèvres, il faut qu'il aille voir Jacqueline.
Bah, il peut même la faire venir à l'Elysée, hein, franchement.
Ah
hein,
oui,
sur les dorures. Hein.
Allez-y, monsieur le président.
Elle est en superbe marche au rêve ce soir. On a une gagnante, Cyprien, s'il vous plaît. Ce soir.
Attends, il faut qu'elle réponde à la question. D'abord, elle est en ligne avec nous.
Il est dur, quand même.
Bonsoir Liliane.
Bonsoir toute l'équipe.
Bonsoir. Vous nous avez appelé bien de Merlimont dans le Pas-de-Calais.
Oui, tout à fait.
Et vous adorez le football?
Pas du tout.
Alors, quel est le surnom de l'équipe suisse que les Bleus affronteront lundi? Est-ce que c'est la Nati? Attendez. Est-ce que c'est la Nati?
Laissez-nous faire notre blague. Ouais.
Est-ce que là c'est la c'est le Sao? Oh.
Il en fait des caisses.
Ou est-ce que c'est la Squadra Azzurra du lac Léman?
Alors c'est la Nati.
Oh. Bravo. Oh. C'est gagné.
Oui.
Liliane, vous gagnez un magnifique séjour.
À quand la mer en Normandie, Liliane?
C'est l'enregistrement, ça?
Non, je peux faire exactement le même ton si vous voulez.
En live.
Un séjour, un week-end pour deux personnes. Ah, vous rêvez d'y aller? Eh bien, c'est super.
Vous êtes jamais allé en Normandie, fait pour vous. Liliane?
Oui.
Vous êtes jamais allé en Normandie?
Non.
Formidable. Ah, on est super content. Alors là, franchement.
De nuit en chambre double, dans un 4 étoiles. Les
Monsieur
petits
cadeau, il lâche rien. Faut qu'il aille au bout. Alors,
non, mais c'est un super cadeau, Liliane. C'est normal de vous le rappeler.
C'est super.
Bon bah tant mieux. Et si vous voulez commencer à regarder ce que vous allez faire, vous savez ce que vous pouvez aller sur le site, hein, quandlamer-tourisme.fr. quandlamer-tourisme.fr. Il y a un parcours à énigmes, une visite de l'API aux hommes, deux entrées pour le mémorial de Caen. Et on vous offre même un dîner au restaurant.
Ça, c'est la classe. C'est génial. Ça, c'est vraiment, ça me fait vraiment plaisir.
Et
d'autant
Liliane...
plus que je vous remercie beaucoup parce que je vous écoute du matin au soir.
Ah.
Je connais toutes vos émissions.
Ah, super. C'est pas toujours
je
nous,
suis très fan de radio. J'aime tout ce qui est chanson. J'aime tout ce qui est.
Vous pouvez vous enchanter,
les,
si vous voulez.
Les Ruquier, etc. Et je connais tout.
Ah bah c'est mérité, on est vraiment heureux de vous en faire ce cadeau.
Bravo.
Et Liliane, est-ce que ça vous aurait fait plaisir d'avoir un ordinateur portable?
Un ordinateur par professeur et par lycéen.
Non, ça il faut demander à Valérie Pécresse par contre.
Non.
Liliane, on vous remercie de votre fidélité, ça nous fait super plaisir de vous récompenser ce soir. On vous embrasse. Profitez
oui,
bien.
Aussi.
Profitez
je
bien
de ce. Tous. Continuez comme ça, c'est super.
Merci à vous.
Liliane, bon, j'ai fait une petite blague, je peux pas vous offrir d'ordinateur, mais je vous offre une montre RTL du coup.
Ah, ah, yes.
Il est beau, ce cadeau. Merci.
Largement plus mythique.
Comme ça, je serai à l'heure pour me rendre dans ce bel hôtel mais que bah, vous m'offrez.
Tant mieux.
Très et si, gentil.
Et si vous nous envoyez une petite carte postale, on sera ravis.
Je n'y manquerai pas.
Merci.
Je n'y manquerai pas.
Attention, faites-le vraiment. Il y en a plein qui nous ont
envoyé. On attend.
Ouais,
on dit ça. Bisous, Liliane. Merci à vous. Le week-end. Alors, soyons très très clairs. Vendredi prochain. Pour une fois, on va être clair. Vendredi prochain, si tout va bien, dans le meilleur des mondes du football, il n'y aura pas d'émission, tout simplement parce qu'on aura battu les Suisses lundi soir en 8e de finale de l'Euro, et que le quart de finale, c'est vendredi prochain, le coup d'envoi à 18h, il y aura une émission exceptionnelle autour
c'est
des Bleus.
C'est l'UEFA qui se venge.
C'est l'UEFA qui se venge.
Ça y est, ils nous ont écoutés.
Ça veut dire pas d'émission vendredi prochain, si tout va bien pour l'équipe de Didier Deschamps, et donc vous reviendrez, vous,
oui,
précisément dans 15 jours, pour la dernière de la saison.
La dernière, c'est tout à fait.
Vous nous écouterez, Stéphane?
Ouais, je vous écouterai, c'est promis.
Ça marche.
Et on vous remercie encore. On vous remercie encore parce que merci. C'était pas gagné de nous donner 45 minutes de votre temps comme ça.
Ouais, c'est clair.
Ça a été fait avec bonheur, évidemment.
Merci beaucoup.
Rendez-vous dans 15 jours pour vous. Est-ce qu'on peut pas me remettre juste pour ma dernière
Allez, qu'est-ce hop, qui vous
c'est
ferait
parti,
plaisir
là, vous savez, le petit jingle, allez hop, c'est parti.
Allez hop,
on y va et tout ça. On peut se le recaler ou pas, Greg?
Bien sûr.
Le piège pour Greg.
L'original, celui-là?
Ouais,
on y va. Aventure.
Aventure, nous voilà.
Merci les amis, dans un
merci
instant toute l'actualité.
Lourd.
Bon, ok, j'arrête.
Allez, bye.
Allez hop, on y va, en route pour la banque.
On défait le monde sur RTL.